la figure de Jean-Baptiste réapparaît chaque année au moment de l'Avent. Il est, je me le représente, hirsute, énervé, marginal, un genre de zadiste oriental du 1er siècle, entomophage, ce qui est d'ailleurs très branché aujourd'hui, et qui crie comme un diable dans le désert, « Préparez le chemin du Seigneur ». Il appelle à la conversion ceux et baptise ceux qui viennent à lui de partout. Et on peut se demander pourquoi la tradition chrétienne nous invite chaque année, au moment de l'Avent, à revisiter cette figure de l'Évangile qui, chronologiquement, n'entre en scène que 30 années après la naissance de Jésus. Eh bien, je crois que c'est à cause de cette parole prophétique d'une puissance phénoménale, préparer le chemin du Seigneur. Cet appel du Baptiste va nous empêcher de faire de Noël l'anniversaire du petit Jésus. Sa prédication nous dit qu'au-delà de la commémoration de l'événement historique Noël, résonne aujourd'hui dans ce coin du monde où nous nous trouvons, où nous sommes rassemblés, un appel pour chacun d'entre nous à changer de vie. Jésus est bien né à Bethléem il y a 2000 ans, mais est-il né dans nos cœurs ? Où est Jésus aujourd'hui ? Est-il l'éternel emmailloté que l'on dépoussière une fois par an pour l'installer sagement dans sa crèche ? Ou est-il l'éternel vivant au cœur de nos existences ? C'est ce que j'ai entendu dans la première partie de Christelle. C'est à ce défi de la rencontre avec Christ, avec le Christ ici et maintenant, que s'attache Jean-Baptiste, à rien d'autre que cela. Et la première chose qu'il recommande, c'est de nous préparer. Et il s'inscrit là dans la tradition des prophètes, Ésaïe, mais d'autres aussi, Amos, ont appelé les hommes de leur temps à entreprendre ce travail en eux, préparer le chemin du Seigneur. Le prophète Amos a des mots forts, « Prépare-toi à rencontrer ton Dieu ». Cette notion de préparation nous est d'ailleurs très familière. Nous préparons tout le temps quelque chose. Nous préparons notre mariage, nos vacances, nous préparons nos examens. Préparer, c'est enlever les obstacles potentiels qui nous séparent encore du but, de l'événement à vivre. Et c'est aussi, non seulement enlever les obstacles, mais réunir les éléments qui manquent. Il ne suffit pas d'acheter une bonne paire de chaussures pour courir un marathon. Il faut s'entraîner un peu aussi. Mais préparer sa rencontre avec Dieu, comment ça marche ? C'est ça qui est difficile d'expliquer. On entend souvent dire que la foi, c'est une expérience intérieure qui vous tombe dessus, qui vous est donnée par miracle, comme l'apôtre Paul d'ailleurs semble le suggérer dans son épître aux Éphésiens, quand il écrit « C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi ». Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu, c'est le don de Dieu. Quand on regarde ce texte de Paul d'un peu plus près, on s'aperçoit que le don de Dieu, ce n'est pas la foi, c'est la grâce du salut. D'ailleurs, si la foi était un don de Dieu, à quoi servirait-il de témoigner de Jésus autour de nous ? Il suffirait d'attendre que Dieu distribue la foi à ceux qu'il a choisis, et ce serait réglé. Mais ce n'est pas ce qui nous est dit, ni chez Paul, ni chez Marc, ni chez Ésaïe. La foi est un chemin qui se prépare. Nous n'avons pas à attendre passivement que ça nous tombe dessus un beau matin. Dieu nous appelle par sa parole et c'est à nous de répondre. Nous avons donc un rôle à jouer, une responsabilité à exercer. Ceci dit, il ne faudrait pas aller trop loin dans cette idée de responsabilité. Hein. Parce que tout ne dépend pas de nous. On ne peut pas se donner à soi-même la foi. On le décide un matin, ça y est, j'ai la foi. C'est pas comme ça que ça marche. On peut apprendre à s'ouvrir à Dieu. Nous avons un rôle à jouer, c'est vrai. Mais comme dans toute rencontre, c'est dans le mystère d'une relation que la foi va naître. Quelquefois, d'un seul coup, comme une sorte de coup de foudre spirituel. Quelquefois, comme les pièces d'un puzzle qui se construit au long d'une vie entière. Mais selon le Baptiste, ce qui est de notre ressort, c'est la préparation. Pour que la foi naisse en nous, il nous faut entrer en action, il nous faut défricher intérieurement. Commencer par peut-être attaquer à la masse ces montagnes d'égoïsme, de bêtises, d'orgueil qui tuent en nous toute possibilité d'écoute et de rencontre avec Dieu, tout autant qu'avec nos prochains. Il faut encore sortir les pelleteuses pour combler les trous, remplir ces gouffres d'indifférence, ces abîmes creusés dans nos vies par la peur, par le manque de confiance, par la violence subie ou donnée. Combler tout cela pour venir à l'espérance. C'est tout cela, se préparer, ce sont mes mots pour le dire, vous avez les vôtres. C'est s'attaquer à ce qui est tordu en nous, comme le dit le prophète Ésaïe. Rendez droit ces sentiers, c'est bien qu'il y a des trucs tordus s'il faut rendre droit. Ce temps de confinement a pu être propice pour nombre d'entre nous à cette prise de conscience profonde de nos manques, de nos égarements. Peut-être êtes-vous de ceux qui ont commencé un travail authentique de préparation, de recherche de Dieu et de nous-mêmes. Bon, d'autres auront peut-être pris 10 kilos, et épuisé toutes les séries TV, sans trouver une minute pour lire la Bible et une parabole. Peut-être. C'est pas grave d'ailleurs. Il est toujours temps de se préparer. L'appel du Baptiste retentit ce matin. Il retentit chaque matin pour nous tous. Mais pour rencontrer Dieu, pour devenir croyant, le tout n'est pas de se préparer dans un espèce de travail en vase clos, uniquement intérieur. Jean appelle ses auditeurs à deux choses essentielles, et là, il y a du mouvement qui commence à venir, à confesser leurs péchés et à se plonger dans l'eau en quête de purification. Confession, baptême. Confesser, qu'est-ce que c'est ? Littéralement, c'est reconnaître ouvertement. Il ne s'agit pas d'étaler de façon impudique et choquante nos péchés dans l'Église, un dimanche matin pendant le culte, ni d'entretenir, à l'inverse, une relation malsaine avec nos culpabilités intérieures et faire tourner ça en boucle. Non, c'est seulement se reconnaître sincèrement, ouvertement pécheur et de nous déplacer vers le lieu du pardon. Pécher, c'est entretenir une relation injuste à l'autre et à Dieu. C'est pourquoi les gens viennent au Jourdain, avancent publiquement et confessent leurs fautes. Il peut être libérateur de déposer ce qui est lourd pour nous, ce qui est pénible en nous, et le faire dans le secret d'une écoute fraternelle. Là, dans la confidentialité d'une écoute bienveillante, solide et sans jugement, il arrive que de grandes libérations soient vécues. C'est ce à quoi nous invite d'ailleurs l'apôtre Jacques en nous exhortant à confesser les péchés les uns aux autres et à prier les uns pour les autres afin que nous soyons guéris. Et puis, Jean le baptiseur plonge les gens dans l'eau. C'est un rite d'ablution qui est très connu du judaïsme et de l'Ancien Testament. L'idée, c'était d'accompagner la confession du péché d'un signe. Plonger dans l'eau, c'est être lavé, c'est recommencer à zéro, c'est repartir du bon pied. On se faisait baptiser d'ailleurs autant de fois que l'on confessait ses péchés. On sortait de l'eau avec le sentiment d'avoir laissé derrière nous quelque chose de négatif, de lourd, d'avoir été purifié par Dieu. Ce besoin de pardon, de purification, elle est au cœur de l'expérience humaine, pas seulement chrétienne. Nous sommes tous surendettés devant Dieu et devant les autres, et vis-à-vis de nos plus proches. Nous avons tous besoin de pardon. Mais moi, j'entends souvent le discours inverse, hein. J'entends les gens, je m'entends moi-même plaider mon innocence, affirmer que j'ai raison. Les gens disent souvent que je n'ai rien à me reprocher. Et dans les enterrements, alors là, c'est le pompon. On n'enterre que des gens formidables. Des pères exemplaires, des époux aimants, des présidents de la République inspirés, cultivés, visionnaires. Ok, mais la réalité est différente. Quand vous venez devant le Baptiste au désert, les masques tombent. Au désert, les belles images de soi ne tiennent plus. On est mis à nu, on est découvert, on se reconnaît pécheur. Et on plonge dans l'espérance d'une autre vie. Ce savoir pécheur, c'est reconnaître qu'on a besoin d'aide, de pardon, de soutien de la part de Dieu. C'est vivre enfin ce sentiment de plénitude, de conversion. C'est le mot qui est employé ici. Nous avons fait du mot conversion un mot inconvertible, un mot sacré du langage des églises évangéliques. Est-ce que tu es bien converti ? Alors que ce mot, métanoïa, contient plusieurs dimensions. Ce n'est pas seulement cette expérience intérieure fondatrice de rencontre, une fois pour toutes, avec le ressuscité. Se convertir, cela signifie changer radicalement de manière d'être et de vivre. C'est donc ce à quoi nous sommes invités à chaque fois que nous nous égarons, que nous blessons quelqu'un, que nous arrangeons la vérité à notre avantage. Nous avons besoin de conversion, frères et sœurs. Mais pour ceux qui n'arrivent pas à se convertir, qui n'arrivent pas à passer ce cap de la conversion, rien que ce mot les angoisse. Parce que ce mot présuppose une préparation, comme nous venons de le dire, un cheminement. Eh bien, à ceux-là, à ceux qui ne sont jamais prêts au rendez-vous, il y a quand même une bonne nouvelle. La prophétie d'Ésaïe 40, je terminerai avec cette petite note exégétique. La prophétie d'Ésaïe 40 commence par ces mots. Peut-être qu'on peut la remettre, s'il te plaît, et Elliot, la toute première diapo. Elle commence par ces mots, consoler, consoler mon peuple. Et dans la version grecque de l'Ancien Testament, c'est écrit en hébreu l'Ancien Testament, mais il y a une traduction grecque, c'est le mot métanoïa qui est employé pour dire consoler. Ce même mot métanoïa que Jean-Baptiste utilise et qui est traduit par conversion. Ce qui sous-entend la conversion, nous l'avons vu ce matin, un travail, un cheminement, une ouverture à Dieu. Mais il me plaît à découvrir que ce mot métanoïa peut aussi nous inviter à nous laisser consoler simplement. Seulement, consoler par la présence, par la parole de Dieu. Sans qu'il n'y ait rien d'autre à faire, ni confession, ni baptême, ni engagement à être bon ou meilleur, seulement être là, en silence, au désert, en souffrance peut-être, et recevoir la consolation. Au fond, nous ne sommes pas pardonnés à cause de la profondeur, de la sincérité ou encore de la vérité de nos actes de repentance. Nous sommes pardonnés seulement parce que le Seigneur est bon, qu'il est amour, grâce et salut. Au fond, Jean-Baptiste ne veut rien savoir d'autre que Jésus le Christ, celui qui baptise d'Esprit Saint, celui qui laisse dans nos cœurs l'empreinte indélébile de son pardon et de sa consolation. Alors, sœurs et frères, que ce temps de l'Avent, de préparation du chemin du Seigneur, et bien que ce temps que ce temps-là nous soit en bénédiction, que ce soit avant tout pour toi, pour moi, un chemin de pardon et de consolation. Amen.